We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les poules castes de Doc.
Ok, c'est
jusqu'ici, on a parlé dans les autres podcasts pas mal de campagnes. Là, je vais vous parler plutôt d'un cadre de campagne. Donc, pour comprendre de quoi on parle, un cadre de campagne, concrètement, c'est un décor et un contexte qu'on va mettre dans un JDR pour jouer au même JDR, mais pour lui donner une autre saveur. À ta santé.
Vous avez entendu l'eau ?
Oui, j'ai entendu l'eau.
Vas-y, pardon.
Ce n'est pas grave. Donc, les mystères de Londres, comme son nom l'indique, permet aux investigateurs donc de jouer à Londres.
Juste une chose, c'est chez qui ?
Justement, c'est
pardon,
ce que j'allais dire
précisément
suite. C'est de chez Septième Cercle, c'est du système Gumshoe. Donc je vais pas m'étendre sur le système de règles parce que je vais quand même vous parler de profession, de compétences, éventuellement de niveau de vie. Mais je pense que même s'il y a un certain boulot à faire pour le convertir en ADC, je pense que ça vaut la peine. Donc du fait que vous ayez entendu les mystères de Londres, je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont sauté dans leur siège et ont tout de suite pensé à...
Oula,
oui, il y a quelque chose là. Tout se passe bien ?
Non, oui, c'est bon. C'est bon, excusez-moi, il y a eu une coupure.
C'est du fait que ça s'appelle les mystères de Londres, ça se passe à Londres.
Oui, du coup, et beaucoup de personnes ont dû immédiatement penser à Cthulhu 1890.
Yes.
Évidemment, le comparatif va se faire, forcément. Donc ce qu'il faut savoir, malgré tout, avec la gamme du 7ème cercle, c'est que déjà que ça se passe dans les années 30 et pas dans les années 20. Donc il y a la Grande Dépression qui est passée par là. Et ça va justement influer sur le contexte. Alors je vais vous présenter le contexte des Mystères de Londres.
Ah, c'est intéressant ça, ouais.
C'est la première différence avec Cthulhu 1890, c'est que Cthulhu 1890, vous allez jouer, on peut faire du Sherlock Holmes avec, on peut faire beaucoup de choses différentes. Les Mystères de Londres se centrent sur l'industrie des livres occultes, parce que c'est une industrie, monsieur. Et c'est une industrie en plein essor, et pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'il y a deux phénomènes amenés par la Grande Dépression. Le premier, c'est un phénomène économique. C'est les grands collectionneurs de livres occultes. Et ben, ils sont sur la paille, donc ils sont obligés de vendre leurs bouquins pour gagner leurs deniers pour survivre. Et à côté de ça, du fait que c'est la crise, il y a une remontée théologique. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent à diverses croyances, qui se mettent à l'occultisme. Donc il y a une forte demande des bouquins. Donc, vous vous doutez bien que parmi tous les bouquins d'occultisme qui tournent, il y en a un ou deux qui vont parler du mythe, et qui sont pas si faux que ça, et que les choses vont rapidement tourner au vinaigre. Dans ce contexte, les joueurs incarnent des chasseurs de livres, donc c'est des personnes qui peuvent avoir différents métiers, mais toujours basés autour du livre, dont l'activité principale en général, ça va être de rechercher un bouquin qu'on nous demande ou de revendre des bouquins. Donc le premier chapitre des Mystères de Londres s'intitule Chasseur de livres, justement. Et permet...
sans vouloir faire une remarque désobligeante, c'est un peu le rôle de Johnny Depp dans La Neuvième Porte.
Oui, c'est complètement ça. C'est du Dan Corso, Neuvième Porte. C'est,
D'accord, pour se donner une idée. Ouais.
Oui, c'est vraiment ça. Quoi.
C'est pas désobligeant, il est très bien La Neuvième Porte.
On après, en reparlera.
Voilà, on en reparlera.
Pour d'or, c'est très bien.
D'accord, donc première partie.
Je vous garantis que les Mystères de Londres, ça peut être un peu plus... un peu mieux que ça. Hein. Je m'étendrai pas là-dessus.
Je te laisse pas déstabiliser, pardon.
Premier concept, les joueurs vont bien sûr créer leur personnage. Il y a des nouvelles professions qui sont présentées par rapport au livre de base du Gumshoe, qui sont le libraire, l'agent de collection, le faussaire et l'occultiste. Et En plus de créer leurs personnages, les joueurs vont créer une librairie qui tiendront ensemble.
Et ah, ça, sympa c'est ça.
Génial.
Ah, c'est bon ça.
C'est une raison aux joueurs d'être ensemble.
Ouais, très très bon.
Y a des mécaniques de jeu autour, parce que comme les joueurs, la librairie a un niveau de vie, donc un niveau de richesse. Donc la librairie, ça peut aller de la charrette pleine de livres à la librairie luxueuse dans la grande allée. Et selon le niveau de vie, ben ça va amener à évoluer. Et dans une librairie, il y a des clients, il y a des concurrents, il y a des...
Ah, ce qui veut dire que t'as les deux pendants, t'as acheteur et vendeur.
Voilà.
Ah putain.
Ouais. Et on est vraiment sur un bon concept, parce que la librairie va attirer des gens. Donc, ça donne une raison, par exemple, vous savez, ça évite de trouver l'oncle de nulle part ou la personne qui ne peut pas vous voir pour une raison. Là, c'est typiquement un client dans une boutique qui peut éventuellement vous demander de chercher un livre, c'est votre boulot. Donc, c'est juste super pour faire des intros, ça donne un cadre très précis.
Est-ce qu'il te donne des exemples de librairies ou pas toutes faites?
Oui, oui.
D'accord.
On nous donne des exemples de librairies qui ont vraiment existé. On nous donne des descriptions selon le niveau de vie. Par exemple, je vous donne juste le niveau de vie 0, pas d'adresse fixe, une charrette de livres sous Waterloo Bridge, ou un étal sur un marché dans l'East End, un fond moisi et dévoré par les vers, même les journaux et sensations sont souillés par l'humidité, et d'autres matières innommables. Donc, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. J'ai fait une campagne avec les Mystères de Londres. Mes joueurs avaient un niveau de vie 2. 2, en général, c'est une chambre de bonne, concrètement. Et ils voulaient de l'espace. Donc, ils se sont dit, on va squatter un entrepôt sur les docks de la Tamise, dans le coin pourri. Ce sera pouilleux et humide, mais au moins, on aura de la place.
Le début du loft, quoi.
Et ça a donné des moments géniaux à base de planchers qui cèdent sous la Tamise, enfin bref.
Parce qu'on joue la création, enfin on joue finalement la création de la librairie.
Oui, et là aussi, le livre va même plus loin, chaque joueur peut créer un habitué. C'est-à-dire que chaque joueur va créer un PNJ qui est un habitué de la boutique. Outre le fait que ce PNJ puisse être une mine de renseignements, ça permet également au maître joueur, c'est toujours des personnages qu'il peut utiliser. Et puis, quand vous créez un personnage, vous le connaissez. Voilà, c'est juste ça.
Par contre, juste pour savoir, parce que t'essaies de te dissimuler, mais il y a du narrativisme quand même, mais
oui,
est-ce que le gardien crée aussi, est-ce que le maître du jeu crée aussi une personne de la boutique ou pas?
Alors, la librairie peut être tenue par un libraire, si un joueur a pris la fonction libraire, la librairie ne peut être tenue par aucun libraire, ou alors le maître joueur peut créer un libraire qui dirige la librairie. Ça peut être sympa, ça permet à la boutique de tourner pendant que les investigateurs sont ailleurs, etc.
D'accord.
Donc c'est vraiment très libre. Le narrativisme, je vais mettre les points sur les i tout de suite. La gamme Gumsho, c'est du Kenneth Haidt, c'est Eddie Robin Dillo. Dans le cas présent, l'ouvrage a été écrit par Kenneth Haidt. On est vraiment sur quelque chose, c'est pas du narrativisme, mais on est quelque chose de plus, effectivement, qui tend plus vers le narrativisme que la gamme de la DC, Chaosium, etc. Donc effectivement, les joueurs qui se disent « bon, moi je crée mon personnage et après j'attends, c'est le maître joueur qui fait tout », ils vont peut-être grincer des dents parce que là on va leur demander de faire un petit peu plus.
Est-ce que ça rappelle un peu, je sais pas si t'as entendu le dernier Poulpièce où Desprite parler de l'affaire Armitage, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que finalement ça pose
d'accord. Le narrativisme s'arrête à la création de détails et de PNJ secondaires qui peuvent devenir principales si même j'y veux, mais non, là le scénario on n'est vraiment pas sur l'affaire Armitage.
D'accord.
Donc ensuite, on nous présente toute la scène la scène du livre. Donc on nous présente les livres principaux, les commerces, comment trouver un acheteur. On nous présente même le jargon de la chasse aux livres. Ah oui, oui, si vous voulez, vous rechercherez ce qu'est un fruit vert, c'est très amusant. On nous présente également les ventes aux enchères, parce que les livres tournaient beaucoup autour de la vente aux enchères, avec, pour les enchères dramatiques, des mécaniques de jeu liées, que j'ai testées et qui fonctionnent super bien.
Du style
à base de faudrait que j'explique un petit peu le système Gumshoe. En gros, le système Gumshoe, vous avez des points dans des compétences, et si vous voulez un indice, vous l'avez. Dépenser les points, ça sert juste à avoir
des détails en plus,
supplémentaires,
ou... ouais, des infos supplémentaires, un gain de temps, le bonus peut prendre une nature différente. Là, utiliser les enchères, ça va être des dépenses de points en niveau de vie pour savoir si on remporte l'enchère ou non, quoi.
D'accord.
Et ça peut être. Et effectivement, comme on ne sait pas en face le niveau de vie de l'autre, c'est vraiment de la spéculation. C'est, est-ce que je dépense mes points? Est-ce que je les dépense pas? Enfin,
en plus, ouais, tu joues l'avenir de l'équipe, quoi.
C'est. Tu peux jouer l'avenir financier parce que si tu dépenses plus de points que ce que t'en as, après il faut donner la note quand même. Hein.
Ça, tu peux mettre des créanciers, des qui viennent récupérer l'argent, tu peux te marrer quoi.
Ça c'est mon horloge, n'y prêtez pas attention.
Putain, c'est l'ambiance.
On savait que ça allait te plaire, bon.
Il y a des mécaniques qui sont expliquées, comme par exemple, je vous en donne une, hein, le feu d'enchère qui consiste à surenchérir au maximum pour faire flamber les prix sans acheter. Typiquement, en général, c'est parce qu'on est en lien avec le commissaire priseur et parce qu'on a envie de se faire plein d'argent. Voilà. Les bibliothèques sont également présentées.
Ah, intéressant ça. Il y a les plans et tout.
Je viendrai au plan, mais effectivement, il y a certains plans. On nous présente quelques livres occultes historiques, des livres qui ont vraiment existé, comme l'Albrum, le Livre des Morts, etc. On nous présente quelques livres du mythe. Ça, par contre, je ne sais absolument pas s'ils ont vraiment existé ou non. Je pense que non. Hein, mais... Ensuite, on nous présente le Londres des années 30. Oui, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de choses.
Mec.
Le Londres des années 30, concrètement, on te le présente en 20 pages. Quand vous voyez à côté que tu lis 1890, vous dites 20 pages, ça fait peu. Alors,
face à 440, oui, c'est vrai.
Vous avez, dans ces 20 pages, on vous présente Londres quartier par quartier, mais on vous présente plus l'ambiance des quartiers que les quartiers eux-mêmes, je m'explique. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver comment les gens s'habillent, où sont les marchands de chaussures, où sont l'alimentation générale ou autre. On va vous donner, en gros, vous, par exemple, je prends un quartier, vous avez un gros paragraphe pour décrire le quartier, des informations liées à certaines compétences. Donc en gros, quand vous présentez le quartier, s'il y a un joueur qui vous dit « j'aimerais en savoir plus », tu peux lui dire, en utilisant archéologie, je peux t'en dire plus. Et tu as les informations qui sont toutes données. A noter que dans ces informations, il y a également des informations liées au mythe, dans tous les quartiers. Ce qui donne une petite anecdote de quartier liée au mythe de Cthulhu, ce qui peut faire l'objet d'un scénario, si on est en panne d'idées, ou d'une sorte de quête secondaire dans la campagne, si les joueurs veulent souffler. Ensuite, il y a des contacts, on nous dit qui traîne là-dedans, qui traîne dans le quartier, qui est-ce que vous êtes susceptible de rencontrer, barman, mendiant, bobby, courtier, factotum, etc. Selon les quartiers, ça varie. En général, il y a une grosse description. Après, si le personnage est présent dans un autre quartier, il y a juste un CF. Et il y a des spécificités selon les quartiers. Par exemple, l'interne en médecine de la City, il va pas traîner dans le même hôpital que l'interne en médecine dans le quartier pourri de l'Est End. Donc oui, 20 pages. Et enfin, après les contacts, vous avez des rumeurs. Qu'est-ce qui se dit dans le quartier? Et avec ces trois choses-là, vous pouvez monter un quartier vivant, qui sera pas un quartier historiquement exact, mais un quartier qui fout dans l'ambiance, quoi. Et vous aurez vraiment l'impression d'être dans le quartier, même si ce n'est pas au trottoir près, si vous voyez ce que je veux dire. Après ces 20 pages, Une autre vingtaine de pages qui présente Londres et le, en gros Londres et le mythe. Donc là on, encore, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec le livre de base pour présenter les, par exemple les cultes de Cthulhu, où est-ce qu'ils sont, le culte des sorcières, où est-ce qu'ils sont, etc., etc. On nous présente trois cultes qui sont exclusivement londoniens. La confrérie du pharaon noir, ah. Les guerriers chéreux, que personnellement j'adore.
Lequel, le dernier présente...
Oui, le guerriers chéreux, quand on sait ce que c'est juste magique. ensuite, on nous présente une divinité qui s'appelle Ramtegoth, qui n'est pas présente dans le livre de base de Gumshoe, mais qui, si j'ai bonne mémoire, est présente dans le livre de base de l'ADC. Donc là, c'est une page entière de... de différentes définitions de Rantegoth. Ensuite, on nous présente certains monstres de Londres. Donc, il y en a une petite dizaine. Il y en a certains qui sont vraiment dans l'ambiance, comme les choses poussières, les vampires de feu ou les chiens liches. Il y en a d'autres, j'ai un peu plus de mal à voir ce qu'ils foutent dans Londres, comme les habitants des profondeurs, mais ça peut toujours servir. On nous donne des liens avec les créatures du livre de base. Ensuite, on nous présente une magie optionnelle qui s'appelle la mégapolysomancie, sur laquelle je reviendrai plus tard. Je ne l'ai pas fait jouer, je vais pas m'y attarder. Ensuite, on a une dizaine de pages pour créer une campagne, et ça se voit vraiment avec les livres de souvent les livres de la gamme Gumshoe. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez des conseils et blindes de conseils. Donc, loin d'être paumé, on vous présente trois styles pour colorier un peu vos campagnes. Donc, le style abracadabra... Oula, je vais le relire parce que celui-là... Abracadabrantesque. En gros, c'est Londres, Bagdad dans la Tamise. Londres, c'est une ville tellement compliquée où il peut se passer n'importe quoi. Typiquement, des cultes à chaque coin de rue. Des choses qui sortent de nulle part, des... On cherche pas le réalisme dans le Londres abracadantesque, c'est vraiment tout peut arriver. Ensuite, on nous présente le Londres sordide. Bon, le Londres sordide, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On a tous vu des films de Jack l'Éventreur ou autre, donc on se devine assez bien ce que c'est. Et enfin, on nous présente une coloration Technicolor, qui est en gros la version prestigieuse de Londres.
Il y a encore un peu de faste quand même.
Oui,
mais en gros, peu, ouais, d'accord.
Dans le Technicolor, tout est exagéré. Les bibliothèques sont gigantesques et pleines de bouquins. Vous savez, ces films, par exemple, où quand vous voyez une bibliothèque, vous dites, c'est pas possible, comment ils pourraient lire tout ça, quoi. Là, c'est exactement ça. C'est un genre de, typiquement des égouts à ne plus en finir.
Des côté démesuré, quoi. Hein.
Voilà, tout est démesuré, c'est le mot, démesuré. Ensuite, on nous présente la notion de dramatis personae, en gros la notion de PNJ récurrente, qui et comment l'utiliser dans ce cadre de campagne. On nous donne donc des exemples de PNJ. On nous donne des conseils déjà pour créer un scénario. Et parmi ces conseils, on sent un petit peu, malgré tout, faut pas le cacher, la patte narrativiste, parce que quand on lit des titres comme « Aventure inspirée par les joueurs », je peux deviner que ça fasse grincer des dents. Personnellement, j'adore l'idée.
Bon, reste calme, reste calme.
Mais oui, ça permet vraiment de profiter de l'imagination des joueurs pour en faire plus, quoi. Et quand t'as un cadre qui est bien fixé, que t'as des joueurs qui ont créé leur propre PNJ, qui sont vraiment l'impression d'être chez eux dans leur librairie et qui sont vraiment dedans, ils ont toujours à voir des idées auxquelles nous, maîtres joueurs, nous n'avons pas pensé, et c'est à nous de reprendre ces idées sournoisement pour les réexploiter. Ensuite, il y a le scénario. Lettre noire à Whitechapel. Le scénario, concrètement, c'est... bon, attention, spoiler, mais je pense que vous avez compris, Whitechapel, on sait qu'il y aura un lien avec Jack l'Éventreur, Mais
c'est oh mon dieu.
Ah oui. On ne l'aurait pas du tout deviné. Enfin bref. Toujours est-il que je ne l'ai pas fait jouer, mais de lecture, ça a l'air d'être un très bon scénar. Exactement, apparemment assez classique pour le cadre de campagne. Donc ça commence par un mec qui nous demande de retrouver un bouquin. Ensuite, finalement, on va s'apercevoir que les gens qui détiennent ce bouquin sont pas des tendres. Et on découvre le premier propriétaire du bouquin, on se dit « Ok, ça sent très mauvais ». Et enfin, on se dit, ça finit par une vente aux enchères. Comme
pas mal comme point d'orgue, ouais.
Ouais, ouais, une belle vente aux enchères avec des PNJ assez hauts en couleur. Et comme souvent dans les scénarios de Kenneth Haidt, il y a une grande liberté qui est laissée au maître joueur. La trame principale reste la même, mais il y a beaucoup de détails sur lesquels il y a plusieurs pistes qui sont données. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le scénario, vous allez rencontrer, ou pas, ça dépend du maître joueur, un personnage qui s'appelle Birgit von Kons. Et on nous le dit, Franco, quel est le véritable projet de Birgit? C'est au gardien d'en décider, choisissez parmi ses options ou mélangez-les. Et on vous donne plusieurs options, et après, libre à vous de prendre celle qui vous semble la meilleure. C'est un excellent point que le scénario est très adaptable et peut servir de premier chapitre pour une campagne, dans le sens où il n'est pas du tout dirigiste ou qu'il ne donne pas le ton de la. Il ne vous impose pas un ton pour une campagne. Après, le petit reproche qu'on peut faire au scénario trop modulable entre guillemets, bien que je ne pense pas que l'être noir à Whitechapel tombe dans ce travers, c'est qu'un scénario trop modulable perd de son identité. Pour revenir à, par exemple, à Rafio, Yatch et Liqueur d'Algues, je pense qu'il a, le succès qu'il a parce que, justement, c'est parce qu'il n'y a pas 30 versions différentes de ce scénario-là. Mais donc, et dans ce scénario, je ne vous le cache pas, on nous présente une version de Jack l'Éventreur avec le petit bloc de Carac, au cas où il y a des PNJ qui se sentent un peu trop téméraires. Hein.
Et enfin, ne pas jouer une femme.
Et enfin, et ne pas traîner à Whitechapel non plus. Et enfin, vous avez ce que je ne dise pas de bêtises. Une quarantaine de pages, c'est que des cartes.
Ah putain.
Oui, le matériel en cartes est énorme. Vous avez le Londres des années 30, quartier par quartier. Vous avez les plans de la National Gallery, les plans du British Museum, les plans de l'Armagram.
Oh putain.
C'est du gros lourd.
Très sympa.
Et vraiment exploitable.
Et une version sur le site du 7e cercle, vous trouvez les PDF pour les imprimer. Les plans, notamment le Londres de quartier par quartier, sont faits en sorte que quand vous les assemblez, vous pouvez obtenir vraiment le plan de Londres sur la table.
Ah putain.
On peut jouer sans, bien sûr, mais avoir le plan de Londres sous la table, ça permet déjà aux joueurs de situer leur petite librairie quand ils commencent. Ouais, tiens, on va être là. Et ça permet de prendre aux joueurs de prendre conscience que Londres, c'est quand même bien grand. Et ça va me permettre de revenir sur la petite magie optionnelle, la mégapolisomancie que j'avais éclipsée.
Ouais, mais on avait noté que tu devais en reparler. Donc avec Prince Noir, on l'attendait.
J'en reparle parce que les cartes, ça donne un véritable intérêt aux cartes. C'est que la mégapolisomancie, c'est la magie des villes. En gros, une ville, c'est une concentration de personnes, c'est une concentration d'énergie qu'on peut utiliser. Les pouvoirs sont laissés à l'appréciation du maître joueur. Il y a comment s'en servir. Il est détaillé également des effets possibles. Et
T'as des exemples, des trucs comme ça? Ça m'intéresse.
Un simple exemple. Bouchez-vous les oreilles parce que je risque de spoiler une partie de Lettres Noires à Whitechapel. Ou quoi que c'est du fait historique. Les meurtres de Jack l'Éventreur, si vous les mettez sur une carte, ça forme un symbole ésotérique.
D'accord.
D'accord. Vous pouvez utiliser ça. Par exemple, vous pouvez tout à fait dire dans ce bouquin, il est indiqué qu'à tel endroit, il y a une mystérieuse glyphe. À quoi elle sert? Puis quand les gens ils vont se situer sur l'endroit, ils vont faire waouh, ça forme un symbole. Et tous les gens dans la périphérie de cette symbole se transforment lentement en profond. What? Enfin,
ah, d'accord.
Il y a plein d'idées à exploiter comme ça. Et donc,
ouais, ça c'est le super intérêt d'avoir la carte, quoi.
C'est un super intérêt d'avoir la carte. Et évidemment, les rues sont sur la carte sont un peu évidemment vu que c'est comme une carte routière, hein. Faut une loupe quand même pour pouvoir lire. Mais
avec les PDF, c'est lisible.
Et le PDF, c'est tout à fait lisible, et même sur papier, il suffit d'approcher un peu les yeux, et vous voyez tout à fait. Mais ça permet exactement de savoir où on est, ça permet, en tant que maître joueur, de pas avoir à inventer des noms de rue au hasard. ça, c'est un truc qui est génial, quand tu prépares le scénario, tu fais, tiens, il va se passer un truc là, pourquoi pas, je vais les emmener là-bas, quand les gens se situeront sur la carte, ils vont s'apercevoir que en portant cette relique, ils ont fait un itinéraire.
T'as une version joueur et une version gardien ou pas des cartes?
Non, c'est comme une vierge. Mais après, par exemple, je suis certain que maintenant, avec les tablettes, il est tout à fait possible de avec un simple logiciel de dessin, d'avoir sa petite tablette et son plan de Londres dessus, de son côté du paravent, et de noter tout ce qu'on fait, et les joueurs d'avoir le plan en papier au milieu de la table, et ça permet de donner une ambiance vraiment, vraiment sympathique. Et enfin, et après j'aurai fait le tour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ça fait combien de pages?
Ça fait 140 pages.
C'est dense.
C'est dense. Hein. Il y a beaucoup de choses. On nous donne quelques prix rares dans les années 30, donc quelques exemplaires de prix, ça permet vraiment de se faire une idée. On nous donne des exemples d'antiquaires bouquinistes à Londres, on nous donne une chronologie de la décennie, qu'est-ce qui s'est passé à Londres d'important, et toute la carte est indexée. Je dis bien toutes les cartes.
D'accord.
Donc il y a une... c'est pas intuitif à utiliser, ça reste un index lourd. Donc il faut s'en servir en préparation et non pas pendant le jeu.
Ce que tu veux dire par là, c'est que c'est quadrillé et t'as dans I5, il y a ça, d'accord.
Mais ça permet instantanément de savoir quelle rue est où. Et il y a une page dans laquelle on nous donne des librairies avec leur lieu sur les cartes, des emplacements généraux, où c'est Chelsea, où c'est le Covent Garden, où c'est Forest Hill, où c'est Green Park. La même chose pour des lieux de vente aux enchères. Et enfin, vous avez quartier par quartier les monuments des quartiers qui sont situés. Et en gros, ça permet aussi de voir de quel pan de carte, où est quel quartier, parce que c'est peut-être le petit truc que je conseille de faire au début, parce qu'on des fois, quand vous lisez South London, West End ou East End, on n'a pas sur les cartes, on a un peu du mal à voir. Donc c'est très pratique. Et après, tout est écrit en petit avec les index de secteur, et avec une petite bibliographie aussi, on nous dit quelles sont les inspirations. Et voilà, 140 pages. Donc, mon a priori dessus, pour l'avoir fait jouer, c'est vraiment sympa. Personnellement, j'avais fait une campagne avec Nyarlathotep sur fond de thématique égyptienne qui était absolument...
Les secrets de la pyramide.
vraiment donné avec la découverte d'un mystérieux pharaon par des explorateurs anglais et son rapatriement au British Museum de Londres. Enfin, il y avait vraiment moyen de faire. Et
t'as fait jouer quoi donc dedans cette campagne-là? T'as fait jouer d'autres scénars?
Non, je n'ai pas pu faire jouer d'autres scénars, et je n'ai pas non plus fait jouer Lettre Noire à Whitechapel. Mais sur cette campagne, c'est là qu'on voit que, enfin, c'est vraiment en jouant la campagne que j'ai compris le potentiel du bouquin, quoi.
D'accord. Bon, écoute, Je crois que je sais pas trop. T'as peut-être dépassé, mais bon, comme c'est.
Ah, c'est possible, je vais regarder.
Ouais, 18. Oui, je pense que t'as fait 30 minutes, non?
Ouais, j'ai fait 30.
Oh le salaud!
Ah, c'est bête, tu vas perdre des points.
Eh bien, tant pis. Mais bon, en même temps, je veux dire que. L'ouvrage était très dense, alors forcément.
Bah alors maintenant, c'est à nous. Ok. Donc, bon, pour être sûr, tu travailles pas au 7ème cercle?
Non, je ne bosse pas.
D'accord. Non, pour être sûr que tu essayes pas de nous vendre un truc, parce que c'est quand même assez bien vendu, donc je m'étais dit, il faut faire gaffe quand même. On est censé être objectif sur TOC. Sauf moi qui suis tout le temps subjectif.
Bon, je suis peut-être passé un peu vite dessus, mais j'ai quand même relevé les petits défauts que j'avais croisés.
Alors déjà, moi, comme remarque, je sais que le bouquin a été vachement bien critiqué. Je sais que dans les différentes critiques qu'il y a eu sur les sites de jeux de rôle, ça fait partie des ouvrages, comme ils l'ont dit, par exemple, dans un autre style pour le manuel de l'équipement pour la Plutum V6. Mmh. Beaucoup de gens ont dit c'est un truc qu'il faut acheter si le sujet vous intéresse, parce que c'est cross ce jeu de rôle, quoi. C'est pas lié à un jeu de rôle, c'est vraiment un truc, c'est une brique, quoi. C'est un contexte, comme tu dis, tout à fait. Comme remarque que j'ai, quand tu dis que tu n'as pas été, enfin que tout est dedans, est-ce que tu as été quand même obligé de faire des recherches à côté pour monter la campagne ou pas sur Londres?
Non. Après, je ne suis pas un maître joueur qui est très exigeant historiquement parlant, donc. Si les joueurs ont besoin d'une boutique de chaussures, je spawn la boutique de chaussures et je ne cherche pas à savoir si elle a vraiment existé ou non. Mais avec le matériel qu'on a là, les ambiances, ça donne énormément d'idées et ça va presque de soi. Et puis c'est sûr que ça doit être un peu plus complexe si vous voulez faire de la mégapolisomancie pour, par exemple, pour faire des symboles ou autres sur les cartes. Mais je pense que, personnellement, j'ai pas eu besoin de chercher ailleurs.
Question, Prince Noir ? Remarque ?
Ouais, non, pas de... Si, les rumeurs, oui, je voulais te demander, les rumeurs,
oui.
Jusqu'à quel point on peut intervenir dessus, est-ce qu'elles sont bien détaillées ou c'est très court, c'est très synthétisé, comment ça marche, les rumeurs?
Alors, les rumeurs, je peux t'en lire une, par exemple, ça te donnera vraiment une idée, rumeur du West End, une cabale de bibliothécaires a caché une bibliothèque secrète parmi les rayons du British Museum. Ces bibliothécaires sont les seuls à connaître le catalogue des fonds secrets. Ils rangent ces livres, souvent camouflés par de fausses couvertures, en suivant un classement apparemment impropre ou légèrement décalé sur les rayonnages de la bibliothèque. Point. T'en fais ce que tu veux.
Ah putain. Ouais, pas mal.
C'est juste l'idée, quoi.
Ah, mais c'est juste ça, quoi.
Et c'est, voilà, tes rumeurs, ça fait un paragraphe par rumeur. Et mais il n'y a pas besoin de plus, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin de savoir qui c'est les mecs de la cabale du bibliothécaire. Tu tombes sur cette idée, tu fais « Putain, c'est génial. Il me faut un culte qui cache une bibliothèque du mythe dans le British Museum. Je vais faire ça. » Et tac, tu pars là-dessus.
C'est bien, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas pour forcément un gardien débutant.
Voilà, ouais,
faut bien enrober le truc, quoi. Comme l'indice, c'est intéressant. Faut pas juste qu'en cherchant dans le... Enfin, c'est des trucs à distiller habilement, en disant, voilà, tu cherches un bouquin, mais c'est la deuxième fois, à chaque fois que tu cherches un bouquin, bah, tu devrais le trouver à un endroit, et c'est un bouquin différent que tu trouves, ou alors amener des choses un peu bizarres, le mec que tu croises à chaque fois, et... Mais, d'accord. Ouais, donc finalement, t'as vachement de matos.
Énormément de matos.
Mais toi, tu le qualifierais quand même d'un ouvrage pour gardien expérimenté.
Je conseillerais, avant de se lancer dans les mystères de Londres, d'avoir fait au moins 2-3 scénarios de Cthulhu, d'en avoir conçu un ou deux avant, histoire de s'être fait une idée de ce que c'est déjà un scénario de Cthulhu, et comment... à mon avis, faut déjà avoir une bonne idée de comment ça tourne. Après, s'il y a des gardiens qui sont enthousiasmés par le projet, enfin par le sujet, et qui se disent « il faut que j'essaye », ben, jouez Lettre Noire à Whitechapel.
D'accord. Toi, tu l'avais acheté pour quoi ? Pour Londres ? Pour le côté novateur du format ou...
Réponse Joker, c'était un cadeau. Donc, ça m'est tombé sur le coin. Et, enfin, ça, oui, ça m'est tombé sur le coin et j'ai fait. Ok.
Et la personne qui te l'a offert, tu sais pas ce qu'il l'a décidé. La couverture est assez sympa en plus.
Ouais, la couverture est très sympa. Les illustrations sont ponctuelles et c'est. Je me souviens jamais de son nom, je vais vous le dire. C'est Jérôme.
Huguenin.
Ouais, c'est Jérôme ouais. Huguenin. C'est. Ça fait photoréaliste sans l'être vraiment.
C'est son truc à lui, ouais.
C'est vraiment. Et donc, oui, pour revenir à ce que tu disais, en gros, la personne qui me l'a offert aimait juste beaucoup tout ce qui était vieille bibliothèque, vieux bouquin. Donc, quand il a lu ça, il fait tu me fais jouer ça.
Je crois que d'ailleurs, ça a pas du tout la tête d'un bouquin de jeu de rôle.
Les Mystères de Londres ?
Ouais, si. Enfin, de la couverture.
Après, ça dépend. Honnêtement, en matière de livres de jeux de rôle, en matière de couverture, j'ai vu tout et n'importe quoi. Donc,
ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, je vais vérifier. C'est pas une illustration pleine page.
Si. C'est une illustration pleine page.
Attends, avec un bon, peut-être.
Les Mystères de Londres. Et clairement. Bon, après, on voit clairement, c'est ça qui est génial, c'est que ça fait normal, entre guillemets, mais dès que tu regardes un petit peu plus près, tu vois le mythe très rapidement. Dans le cas de la couverture des Mystères de Londres, on remarque très vite la statue de Cthulhu en haut à gauche.
Ah d'accord, attends, je regarde parce que je me faisais une fausse idée sur... Alors, attends, l'affaire à mythe... Merde, il est où, les Mystères de Londres ?
Je vais te le trouver au pire.
Merde, je le vois pas. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait... Ah non, c'était peut-être le guide ésotérique.
Ah, le guide occulte de Londres.
Ah voilà, c'est à ça que je pensais, pardon. Ouais. Il y avait des hyènes, pas de bouquins de jeux de rôle.
Ah oui, non, le guide occulte de Londres, je peux vous en tenir deux mots, parce que je l'ai acheté quand après avoir fait jouer ma campagne. Et non, c'est pas du tout un... C'est pas du tout un bouquin de jeu de rôle, comme vous l'entendez. C'est... Concrètement, une sorte d'encyclopédie.
C'est un bouquin pour adultes ? Ok, je sors.
Non, c'est pas ça.
Il y a des profondes toutes nues.
Non, c'est simplement un mec qui s'est dit tiens, je vais écrire noir sur blanc tous les aspects occultes de Londres. Ça peut aller du simple petit coin de pierre aux organisations, et c'est une mine d'informations.
Alors j'ai un truc là-dessus, le truc qui me fait toujours un peu peur, c'est les trucs un peu ouverts, comme tu dis, tu vas créer des boutiques de chaussures et tout ça, est-ce qu'on n'a pas tendance à se perdre dans ses propres créations, si pris par l'ambiance, on note pas qu'on a mis un vendeur de journaux ici, et puis un barbier ici, tout ça, est-ce qu'on se perd pas ?
Non.
Finalement, en tout cas, il faut être organisé.
Là-dessus, vous avez pas un scénario en milieu clos où les joueurs ont un couloir à suivre et point. Mais en général, vous avez un scénario, donc vous avez quand vous avez créé votre scénario, vous avez les lieux phares avec ce qui va s'y passer, ainsi que les liens, les indices et la trame scénaristique. Et tant que vous ne faites rien qui n'interfère avec cette trame, concrètement, vous risquez pas de...
Mais par contre, il faut noter, quoi.
Oui, parce que
si t'inventes les trucs et tout, parce que le problème d'un lieu clos, c'est qu'ils vont forcément repasser par des endroits plusieurs fois.
Oui. Ben, même dans Londres, les joueurs peuvent être amenés à repasser plusieurs fois dans les lieux qu'ils ont déjà visités ou autres. Mais en général, si les indices se suffisent à eux-mêmes pour indiquer la bonne direction. De ce que j'ai lu à Lettres Noires à Whitechapel, c'est très facile. Enfin, je veux dire, quand les joueurs ont les indices, je pense que ça va être que quelle que soit la direction qu'ils prendront, ils finiront par rencontrer la bonne personne et puis suivre le scénario.
Assurer le principe de Gumshoe, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que En réalité, si tu poses la question ou si tu es au bon endroit pour chercher la chose, tu vas forcément la trouver. Après, ouais, tu mettras plus ou moins de temps. Voilà, si tu as la compétence, tu mettras plus ou moins de temps, mais tu vas la trouver. Donc après, ouais, c'est vrai que l'intérêt là avec Londres, c'est que c'est tellement vaste que tu évites le gros piège de Gumshoe qui, pour moi, est si tu visites une pièce, voilà, tu vas, enfin, tu décris, mais tu vas forcément rapidement tomber sur les indices. Et finalement, ça devient un peu automatique. Alors que là, c'est tellement vaste que finalement, tu faut vraiment choisir le quartier, faut aller dans la boutique, faut vraiment cibler, quoi.
Bon, après, on va pas entamer un débat sur le Gumshoe, mais je pense que souvent, ce n'était pas si automatique que ça. C'est-à-dire que, en général, l'indice, ça peut être un petit objet, ça peut être une marque sur le tapis ou autre. Et
ouais, mais là, c'est on rentre sur une difficulté, c'est un, il faut que le gardien décrive très bien,
ouais,
pour pas appuyer sur les endroits où il y a l'indice, et par contre pour avoir tout décrit. Là tu viens de parler d'une trace sur le tapis, donc est-ce que toi d'habitude quand tu décris tu cites qu'il y a un tapis sur le sol? Ben, est-ce que si la première fois que tu le dis, les joueurs vont forcément mettre le focus dessus et ton indice ils vont le découvrir tout de suite, ou alors ils savent pas que le tapis c'est intéressant, ils passeront toujours à côté. Tu vois, c'est, enfin, pour y avoir joué un peu, c'est la difficulté, c'est un dosage, c'est, ça demande une certaine compétence au gardien, je trouve.
Ouais. Après, là aussi, dans l'ouvrage de base de Gumshoe, il y a une myriade de conseils qui font que qu'il parle de notion d'indice discret, il parle de... Donc, quand, ouais, quand on bookine tout ça, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Mais en gros, pour reprendre ton exemple, je vais dire, bon, bah, dans cette pièce, il y a une commode, il y a un tapis, il y a un lit, il y a une table de nuit. Et puis, les joueurs vont, il y en a un qui va dire, bah, moi, j'examine la commode, l'autre, il va dire, bah, moi, je fouille la table de nuit, le nain, il va dire, bah, je fous le coup de couteau dans le matelas. Puis, évidemment, bah, quand ils vont rien trouver, ils vont dire, soit ils vont se dire, ah, tiens, on n'a pas vu le tapis, ou alors moi je vais dire, toi, ton regard est soudain, ton regard fixe sur quelque chose sur le tapis.
Ça doit pas être facile là de jouer Dark Keeper, parce que d'un côté t'as le côté narrativiste, où c'est complètement ouvert, mais d'un autre côté, moi je trouve que le système Gumshoe force un peu de l'anti-narrativisme, en ce sens que déjà le gardien doit tout qualifier. Enfin, tous les indices, ils doivent donner leurs difficultés, les différentes... Parce que, ok, il peut y avoir pas beaucoup d'indices, mais un scénario...
Je peux pas comprendre, est-ce que tu peux t'expliquer un peu?
Bah, ce que je veux dire, c'est que par exemple, voilà, il y a...
Oh putain, non, c'est pas vrai.
De quoi? Les petites fesses et ton horloge qui a explosé? Ah, tu nous entends plus.
Ok.
Prince Noir, tu m'entends encore?
Oui, moi je t'entends, oui.
Attends, je crois qu'il nous entend plus, non?
Dark Keeper, tu es avec nous?
Ah, non, il est parti. Ah, c'est super, on va pouvoir le descendre. non, mais ce que je veux dire... Bon, je vais continuer quand il sera là, parce que c'est constant. Il va revenir.
Non, ça y est.
Be back.
Voilà. Me revoilà. Donc, t'écoute.
T'as vu, mon argument était tellement de poids que ça t'a déconnecté.
Oui,
non, ce que je voulais dire, c'est que... t'es obligé de... qualifier les indices, par exemple, une petite statuette qui se trouve dans le fond d'un tiroir, tu vas lui donner une difficulté.
Non. Bah, c'est-à-dire que ce soit le cheveu sur le tapis ou le couteau dans le mur, c'est pour les indices vraiment importants sont des indices discrets, donc les joueurs les trouveront forcément.
C'est moche donc, que tu fais vent, c'est moche. Parce que tu l'as même tapis sur la critique de Gumshoe, c'est moche ce que tu fais.
Après, les autres indices, ça sert juste à comprendre un peu mieux. Donc techniquement, les joueurs pourraient se contenter. Un joueur très intelligent, enfin, un joueur pourrait se contenter des indices discrets pour trouver ce qui se passe. Après, effectivement, un scénario d'enquête, c'est jamais simple. Donc, c'est à ça que servent les autres indices.
Ouais. Enfin, moi, le système m'a pas convaincu, mais je comprends qu'il y en a qui s'est plus convaincu. Le fait qu'on découvre forcément, ça me.
Ben,
il y en a plein qui disent que le but du scénario de Cthulhu, c'est pas découvrir les indices, mais c'est plutôt de savoir ce qu'on en fait et comment on les met ensemble.
Voilà, c'est-à-dire que l'appel de Cthulhu, concrètement, c'est la série. C'est, bon, c'est très gros trait, hein, c'est pour que vous compreniez, bien sûr, ne vous mettez pas à la gorge. L'appel de Cthulhu, c'est la série télé où on va vous faire un focus sur le mec qui... ou la police scientifique qui vont mettre leurs gants et trouver le cheveu au milieu du tapis. Et Cthulhu, Trail of Cthulhu, concrètement, c'est la série télé, c'est la série télé où on va faire un focus sur le visage du mec quand il fait... C'était donc ça.
Voilà. Ouais, alors le problème c'est que, vu comment tu nous décris avec le premier, la première série, moi je peux te faire 10 saisons. Par contre, toi, Columbo, tu fais que 3 saisons, quoi. Il faut voir que le problème aussi c'est que, il faut que l'auteur il soit quand même hachement bon. Parce que, il faut pas. Enfin, ce que je veux dire c'est que souvent dans Cthulhu, l'appel au Cthulhu, l'indice se suffit à lui-même. Donc ça ne demande pas d'être un génie du mal ou un génie de l'écriture, un prix Pulitzer pour pouvoir l'écrire. Alors que dans Trail of Cthulhu, justement, l'indice, de quelque façon qu'il soit caché, ils le découvriront.
Oui.
Mais par contre, c'est en les mettant en corrélation, et ça, faut que ce soit subtil, mais faut que ce soit bien fait. Et moi, je sais que j'ai lu quelques scénarios de Trail of Cthulhu, c'est pas toujours bien fait, quoi. C'est
sûr, enfin... ça doit dépendre des... Ça dépend aussi.
C'est pas facile, quoi.
Ça doit dépendre, mais personnellement, je vais te donner un exemple tout con. Scénario de convention que j'ai fait l'année dernière. Vous êtes à la recherche d'un mec, vous arrivez dans une auberge où il est d'une ville où il est censé être passé. Concrètement, l'aubergiste vous dit non, j'ai jamais vu ce mec. Vous voyez le livre d'or avec la signature du mec dedans. C'est clair qu'il est passé, quoi.
D'accord.
Après.
Enfin, pour moi, ça manque de subtilité, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, c'est-à-dire que moi, si je les fais parler avec le type, et là, dans ces cas-là, s'ils me disent, on veut un indice, je vais pas les aiguiller forcément tout de suite vers le livre d'or, tu vois, Alors que oui, mais dans Gumshoe, quand ils sortent de la pièce, ils sont censés avoir balayé les indices s'ils les cherchent. Alors que tu vois, moi, ils peuvent sortir d'une pièce, par exemple, je sais pas, le début des masques, ils peuvent sortir d'une pièce avec qu'une partie des indices. Alors après, les indices se suffisent à eux-mêmes, donc ils pourront les exploiter, mais il y aura des pistes qu'ils auront pas.
Bah, techniquement, si je reprends mon exemple, si ça n'avait pas été le livre d'or, ça aurait été une photo du mec avec le... Ça aurait été une photo du mec accroché plus loin, ou ça aurait été un témoignage du vieux qui dormait devant la cheminée. Voilà.
Ouais, mais tu vois, c'est ce que je trouve de... Finalement, assez dirigiste, quoi, finalement. Parce que... Il faut leur donner la béquille, parce que... Le but, c'est pas qu'ils se nourrissent, mais c'est plutôt qu'ils s'envolent, quoi. Donc la béquille, ils l'auront. Donc tiens, mange l'indice, tu vois. Enfin, moi, j'en ai joué, hein, je me suis éclaté à faire quelques parties, mais le système, j'ai toujours eu un peu de mal à le mettre en œuvre, parce que quand il rentre dans une pièce, je savais qu'il fallait que s'il me disait, je regarde le mur du fond, fallait que je lui dise, derrière le tableau, tu t'aperçois qu'il est un peu décalé, hop, et voilà, il y a un truc derrière.
Que tu lui dises ça ou que tu lui dises tu fais ton test d'objet trouvé, objet caché, tu l'as réussi, il y a ça. Dans les deux cas, tu lui donnes la béquille.
Alors non, t'as jamais joué avec moi, parce que déjà, s'il me dit je regarde le mur du fond, s'il me dit je fais un géant toc sur le mur du fond, je vais lui dire oui, mais encore.
Bien sûr, après.
Tu vois, je vais dire non, je n'autorise pas un géant toc par exemple sur une pièce. Non. Ou un géant toc sur un bureau à cylindre, je vais dire non. Est-ce que tu cherches quelque chose de sous un double fond? Est-ce que tu cherches un mécanisme avec des clés? Est-ce que tu cherches... Mais je lui demandais, tu vois, de plus pousser la chose. Finalement, chose qu'ils n'ont pas forcément à faire, parce que si dans Trail of Cthulhu, je lui dis « Ok, je vais dépenser tant de points et je mets mon max de points pour trouver cet indice », je vais être obligé de me le cracher. C'est ça le...
Et dire qu'on était parti sur la critique des mystères de l'ombre au départ.
Oui, alors c'est certes... Non, mais le départ peut être intéressant, on peut continuer. Mais il y a peut-être une mécompréhension du système, là, parce que, techniquement, la dépense de points, c'est pour avoir des infos supplémentaires. Donc, techniquement, si t'en as pas prévu, tu peux lui dire concrètement, écoute, dépense pas tes points maintenant, ça sert pas.
C'est nul. Moi, j'aime pas ça, moi. Bon, au contraire, s'il claque ses points et s'il n'y avait rien à trouver, je vais dire, ah, d'un con. T'as claqué des points, il n'y avait rien. Enfin, mais je suis d'accord avec toi que j'ai peut-être mal compris le système. Et bon, on va pas non plus passer la soirée là-dessus, mais le fait est qu'il n'y a pas que moi, c'est que le système est assez mal expliqué, je trouve. Dans le livre de base, je fais pas une partie pour comprendre comment ça marche, vu que c'est un concept assez nouveau, de réserve de points, que tu dépenses pas, et puis tout ça, tout ça. Je me rappelle rien que pour l'appel de Cthulhu, au début, quand t'avais la valeur de santé mentale et le pourcentage de santé mentale, moi j'ai galéré ma race, quoi. À chaque fois, au début, je faisais faire les G sous les points de santé mentale.
Je ne prône pas la simplicité du système Gumshoe non plus, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre aussi.
C'est ça qui est un peu dommage derrière, tu vois, c'est que le système est intéressant, sans quoi il aurait nécessité une description et une explication mieux faite.
Après, effectivement, honnêtement, à part te proposer une IRL pour te masturber une partie...
Ouais, mais tu vois, l'appel au Toulouse, j'ai pas besoin de maîtriser une partie pour comprendre comment ça marche. C'est ça qui est un peu dommage.
Figure-toi que, personnellement, l'appel de Cthulhu, je n'ai jamais masterisé. J'ai lu qu'en joueur. Et quand on m'a prêté la V6 anniversaire en couleur, pour que je dise, bah tiens, je vais lire un petit peu le système, et ben, j'étais paumé.
C'est vrai?
J'étais bien paumé. Et oui.
Oh. Et c'est parce que t'aimes pas les pourcentages?
Non, particulièrement. Mais.
T'aimes pas la couleur, alors.
Mais j'étais quand même bien paumé.
Ouais, peut-être pour les rajouts d'endurance et tous les conneries qui sont rajoutées, équilibre, tout ça, mais les règles de base de Cthulhu, elles sont pas compliquées quand même. C'est pas. Parce que je veux dire, par rapport à des compétences d'investigation, des compétences d'action, des points. À Cthulhu, tu jettes des. T'as les points de vie, les points de santé mentale et tu jettes sous un dessin. Ben, après, d'accord, tu rajoutes le fait que si tu combines deux compétences, machin, tu fais des trucs un peu spéciaux, mais les règles fondamentales sont quand même. Sont pas hyper, hyper dures. Non, tu trouves?
Dans Gumshoe, ils sont très simples aussi. Si tu veux, mais là encore, je pense que c'est un débat de sourds. Au final, c'est...
Non, je suis pas d'accord avec toi. J'essaie de m'extraire de la pratique. Et la fois où j'ai lu les règles de l'appel de Cthulhu, même la V6, en retirant les règles optionnelles, et à la fin de ma lecture de Trail of Cthulhu, pour me dire, alors. Les compétences de... Extrais-toi du fait que tu l'as déjà pratiqué et que tu connaisses. Et moi, je trouve que l'appréhension, la prise en main était quand même beaucoup plus délicate pour Trail of Cthulhu parce que, tu vois, rien que le concept des compétences d'investigation et tout ça, ils appellent ça compétences et elles ont pas du tout la même fonction. Rien que ça, moi, j'étais perdu, quoi.
Alors, ouais, après, je pense qu'il y a aussi la patte Kenneth Hyde qui joue derrière. C'est-à-dire que quand on est habitué de l'ancien système, on est habitué aux belles formulations et tout. Kenneth Hyde, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. Par exemple, je l'ai sous les yeux, je peux dire, on nous dit comment rassembler des indices. Rassembler des indices est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est 1. Vous rentrez dans un endroit où vous pouvez récupérer des informations pertinentes. 2. Posséder la compétence adéquate pour découvrir l'indice. 3. Dire au gardien que vous l'utilisez. C'est sûr que dit comme ça, ça peut laisser. Après, il y a un exemple, effectivement. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps.
C'est dommage qu'il n'y ait pas la webcam, tu me verrais miner le violon. Là.
mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est. Rien que ça, tu vois, pour les règles, c'est assez étrange parce que tu te dis. Donc, si j'ai pas la compétence, je trouverai jamais l'indice s'il dépend pas de ma compétence. Tu vois, rien que ce concept-là, moi j'ai du mal parce que moi je suis le premier à avoir joué à RuneQuest où. Tout le monde fait de la magie, ou si tu essaies de défoncer une porte, que tu sois magicien ou un gros bill, dans les deux cas, tu peux essayer. Je vais pas t'empêcher de le faire. Après, la réussite sera différente dans les deux cas. Alors, t'as faim à l'hôpital aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est. Enfin, moi, je trouve que le système, il manque quelque chose. Moi, j'étais le premier. J'adorais la maquette, j'adorais l'idée et tout ça. Et le coup des réserves de points, je trouve ça vachement intéressant parce que ça. T'oblige à gérer ton effort sur la partie et puis savoir à quel moment t'en mets le plus et tout ça. Mais
comme c'est
tu
dur
vois,
de se retenir, comme c'est dur.
Mais en plus c'est ça parce que il suffit que tu sois un peu habitué aux scénars qui finissent par des apothéoses pour te dire moi j'ai vu plein de joueurs qui à chaque fois gardaient leurs points pour la fin. J'avais envie de leur dire non, arrêtez, dépensez tout, faites pas les mini maxeurs. Mais je suis d'accord que ça se trouve, je l'ai mal lu, ou alors je comprenais pas à ce moment-là, mais enfin, je sais pas si tu l'as lu, toi. Prince Noir, tu l'as lu ou tu connais Trail of Cthulhu?
Depuis tout à l'heure, je me retiens d'intervenir parce que vous êtes un contre un. Là, si j'interviens, le pauvre Darcy.
Interviens, il n'y a
non,
pas de
problème. Non, mais c'est pas
non,
ça.
Non, mais en toute honnêteté, est-ce que tu l'as trouvé facilement appréhendable, le système?
Du tout, pas du tout. Non seulement ça, et moi je le trouve, je vais même plus loin que toi, avant je le trouve déjà buggé, moi, déjà au départ. Voilà, parce qu'il se base sur un postulat. C'est-à-dire que le postulat de base, c'est de dire, ouais, non, mais ça sert à rien de bloquer ou d'empêcher les joueurs d'avoir l'indice, c'est pas, ça fait pas avancer l'aventure, etc. Et là, j'ai envie de rebondir sur un podcast qui a déjà été fait, où on a discuté avec Mr. Disparite, où on expliquait la façon intelligente de réagir face aux échecs. C'est-à-dire que ce postulat, il est basé sur une erreur, déjà, de départ, d'une notion binaire, 0 ou 1, c'est-à-dire tu l'as ou tu l'as pas. Alors qu'il y a une manière intelligente de rebondir suite à un échec. Comme disait Disparite, c'est par exemple, la porte tu la défonces pas, mais tu la défonces pas parce que s'il faut, elle est à l'ancien trempé, que derrière tu vois il y a autre chose. Donc le fait de vouloir donner de base l'indice, ça oblige tout ce que tu viens d'expliquer, bon, de devoir gérer des indices de base, des indices supérieurs. Et moi aussi j'ai lu dans le scénario, dans le commerce, des tas de scénarios où il y avait justement cette explication là d'indices de base. Quand tu donnes pas, tu dépenses pas tes points. Si tu dépenses un ou deux points, l'indice de plus. Et des fois tu le lis, tu te dis mais c'est basique, c'est l'indice que tu vas gagner en plus. Tu gagnes pas grand chose, ça sert pas à grand chose, ça te fait pas avancer l'histoire. Ça plus le fait que quand tu répartis les points, il faut veiller. Là je parle de NBA par exemple que j'ai beaucoup adoré, hein, où tu dois répartir les points dans tout le monde. Donc ça veut dire que à 4 ou 5, il faut qu'on ait tous toutes les compétences. Donc là moi si quand tu fais un groupe de 4 ou 5, tu dois veiller à ce que tout le monde ait les compétences, l'ensemble des compétences académiques.
Attends, ça... il est tout seul, vas-y, laisse-le répondre, vas-y Darkeeper, excuse-nous.
De base, qu'est-ce que c'est un scénario d'enquête? Un scénario d'enquête, c'est une suite de découvertes. Après dans le livre de Cthulhu Game Show, vous avez ce qu'on appelle des indices discrets. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un indice discret? Un indice discret, c'est clairement quelque chose que tu remarques sans forcément le rechercher. Je veux dire, t'as pas besoin d'une compétence pour voir qu'il y a un ciseau planté dans le mur ou pour voir qu'il y a une grosse tache de sang par terre. Jusque-là, on est d'accord.
Tout à fait.
Ensuite...
Oui, mais là, c'est revenir au fait que les jets de dés, il faut les utiliser intelligemment. Ça, je dirais.
Oui. Ensuite, tu peux prétendre. J'ai aucune critique vis-à-vis du système Chaosium, que le fait qu'on te dise oui, bon bah t'as raté ton jet, tu trouves pas l'indice, fin de l'histoire. Effectivement, on peut toujours trouver une pirouette scénaristique. Y a aucun problème. Mais au final, ta pirouette scénaristique. Est-ce qu'elle compense pas au final ce qui serait un défaut du système? Après, pour revenir au fait que tous les joueurs doivent avoir toutes les compétences académiques, ce n'est pas vrai. C'est juste à toi de savoir dans ton scénario quelles compétences tu as besoin, et souvent elles sont pas nombreuses. Et t'as juste à dire, écoutez, dans votre groupe, il faut qu'il y en ait au moins un qui ait connaissance de la nature, qu'il y en ait au moins un qui ait ça, un qui ait ça, un qui ait ça. Ensuite, une fois que tes joueurs sont adaptés et que ils trouveront forcément les indices. Et là encore, si t'as prévu que avec une connaissance de la nature, l'investigateur trouve que cette rose, eh ben en fait, elle est pas naturelle parce que c'est un germe du mythe ou je ne sais quoi, et que la personne qui tombe face à la rose n'ait pas connaissance de la nature, tu peux toujours faire une pirouette scénaristique, et en général, les indices, t'as plusieurs façons de les trouver. Personnellement, la rose, tu peux deviner que c'est pas une rose naturelle avec connaissance de la nature, avec chimie, avec d'autres compétences.
Ça faut que tu l'aies prévu dans le scénario?
Non, pas forcément. Ça, c'est, tu peux juste... c'est pareil, c'est une pirouette de MJ, quoi. C'est, je veux dire, par exemple...
Ce que je veux dire, dans ces cas-là, c'est... Alors pourquoi faire le briefing en début de partie en disant il faut que vous ayez ça, ça, ça?
C'est...
Tu vois, par exemple, moi par exemple, enfin, il y a des moments où, tiens, la fleur. Bon, ben voilà, personne n'a de compétence pour la fleur. Bon, ben, ils sont pas bloqués, les joueurs. Ils vont prendre la fleur, ils vont faire un croquis, puis ils vont aller voir un herboriste.
Et ben, dans Cthulhu, tu peux aussi faire ça parce qu'il y a des compétences relationnelles qui permettent de contacter des gens qui s'y connaissent aussi. Par exemple, tu peux tout à fait dire, bon ben, exemple de base, tu peux me dire, on sait qu'il y a un monstre qui évolue dans les égouts, on aimerait lui tendre un piège, pour ça il nous faut le plan des égouts. Personne n'est agent de la DDE, personne ne connaît le plan des égouts. Très bien, s'il y a un joueur qui a des points en bureaucratie, il peut me dire, ah ben, avec bureaucratie, j'utilise bureaucratie pour contacter un agent de la DDE qui s'y connaîtrait, qui pourrait me fournir le plan des égouts.
D'accord, ouais.
Bon, après, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, on va pas se le cacher, quand on a tourné pendant des années au système Chaosium et qu'on nous présente le système Gunshow, c'est normal que le changement est tel que ça peut provoquer un certain rebut.
Ce que je te dirais surtout, c'est que le problème, c'est que moi j'aime bien les scénars. Tu vois, par exemple, l'autre Rafioli Kirdel, tu aurais du mal avec Trail of Cthulhu. Puis à un moment donné, il va y avoir l'action. Et tout le monde reconnaît, et ça c'est assez objectif, hein, c'est pas que moi.
Oui,
mais les règles de combat et les règles d'action, c'est galère. Parce que ils ont un super système pour eux. Ça se défend, c'est ce que tu dis, t'as des bons arguments pour l'enquête. Par contre, pour les scènes de combat ou alors pour les scènes de poursuite et tout ça,
bon.
pas facile. Hein.
Bombe. De répondre à la Darky.
Ouais.
Alors déjà, moi si j'attaque Gumshow, ça veut pas dire pour autant que je défends Chaosium, hein, j'ai tout autant de critiques pour Chaosium. Et de deux, pendant que tu défendais la Gumshow, moi j'ai repris donc le bouquin. Et donc je lis page 9. Hein, le réalisateur et les joueurs parcourent ensuite la liste de compétences d'investigation afin de s'assurer que chacune d'elles ait été choisie par au moins un agent. Alors, moi ce que j'aime bien,
Attends. Par au moins un agent, on est d'accord. Alors que tu me disais que chaque joueur devait avoir toutes les compétences.
Non, c'est pas ça. Je te disais que tu dois te débrouiller pour que toutes les compétences.
Je l'avais compris comme ça aussi. Voilà. Peut-être que tu as mal compris.
Ce qui me gêne moi déjà dans ce système-là, c'est que si tu vas faire ton par exemple de 4 joueurs, tu vas donc te débrouiller pour que l'ensemble des compétences soient réparties sur les 4. Mais s'il manque un joueur, eh bien bingo, là t'es de nouveau emmerdé parce que là tu vas avoir du mal à faire rentrer, etc. Mais moi, c'est à cause de tout petit bug. Attention, je dis pas qu'il est pas bon parce que moi je l'adore, NBA, je l'adore ce bouquin. En plus, je trouve qu'il est bien plus. J'avais, comment il s'appelle l'autre jeu de 7ème cercle, Ésoterroriste, qui était pas mal aussi et qui utilisait le même système. Et là, je trouve que vraiment, ils l'ont donné. C'est ce qu'on discutait juste avant le podcast. On disait qu'il y a des compétences au niveau 8 là qui rendent vachement plus énergique. Le mec qui peut devenir Yamakasi, l'autre qui fait cascadeur. Ben non, mais c'est vrai, moi ça me fait penser aux différents modes de la V6, quoi. Tu vois, le mode pulp et compagnie. Donc ça, je trouve ça très bon. Il y a de très bonnes idées dedans. Mais je suis désolé, de base, il y a des systèmes enfin, il y a une mécanique de création de personnages qui te bug un petit peu, qui t'empêche de te faire ce que tu veux, de faire rentrer n'importe qui, n'importe quand dans ton groupe de joueurs. Enfin, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne collent pas.
Je comprends ton argument. Pour revenir à ce que disait Vonve, c'est curieux que tu le trouves trop complexe le système de combat, parce qu'en général, les joueurs font la critique inverse. Ils disent c'est trop simple.
Ah non, j'ai pas dit qu'il est trop complexe, j'ai dit qu'il est nul. J'ai dit que pour moi, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il me permet pas de gérer un combat comme je veux. Tu vois, par exemple, je me rappelle même plus comment il fonctionne d'ailleurs fondamentalement avec les rafales et tout ça.
C'est très simple. En gros, si tu utilises par exemple, si deux joueurs se battent, bon bah c'est bagarre versus bagarre. On fait des tests à difficulté 4, donc il faut que tu pour lancer un des 6 que tu fasses au moins 4. Et le premier qui se loupe a perdu, sachant que bah, le premier qui commence c'est celui qui a la réserve le plus faible, parce que c'est comme ça, s'il se loupe, bah t'as un gagnant. Et sachant que tu peux dépenser des points, et bon après. C'est clairement un système qui est conçu, c'est clairement un système qui marche si t'appuies de la narration. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune narration, les deux joueurs vont être, bon, le joueur va faire, je lance, j'ai fait 4. Le maître joueur il va lancer, j'ai fait 4 aussi. À toi, j'ai fait 4. Ah, ben moi je me suis loupé, donc c'est toi qui remporte le combat. Dit comme ça, c'est à chier, on est d'accord.
Ah.
Par contre,
ouais, mais
si tu apportes un peu de narration, si tu dis, bon bah, le joueur fait, je lance, bah j'ai fait 5, je lui mets une putain de droite dans la gueule, et que le maître joueur, il lance dans son côté, il obtient 5 ou 6 ou 4, ou en tout cas que ça marche, il fait, bah je t'en mets une et tout, et puis au moment où le maître joueur se loupe, il fait, ah, ben, t'as tapé trop fort.
Ouais, mais t'as déjà joué à Feng Shui ?
Non.
Non, bah tu devrais. Parce que
ouais, par c'est exemple, clair.
Feng Shui, ce que tu viens de me décrire, c'est exactement ça. Feng Shui, tu dis ok, je me balance du haut de la chaise et puis je me jette en déséquilibre pour lui tomber avec le coup de la troisième corde avec mon coude dans la tête. Je vais dire ok, t'as plus 2 à ton jet. Vu ce que tu m'as décrit, t'as plus 2. Parce que je trouve ça trop classe. Et puis c'est sûr que ça va marcher, t'as plus 2. Bon, tu vois, ce qui est dommage, c'est que le travail qu'ils ont fait, que ça se réussisse ou non, ou que ça te plaise ou non, au système d'enquête, je trouve que le système de combat faisait bâcler alors que ça aurait pu être complexe pour complexe avec un système pour les actions et un système pour l'enquête. Pourquoi ne pas avoir fait un système bien adapté pour le combat ?
Est-ce que tu l'as lu, NBA, Bombe ?
Ça me dit quelque chose, c'est quoi ?
Night Black Agents.
Ah non, j'ai pas lu. Il paraît que c'est vachement bien.
Moi, je trouve qu'il apporte quelque chose, hein, justement, au niveau du combat.
Il paraît que c'est vachement bien. Hein.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Trails of Cthulhu a été réédité, il y a une V2, et dans la V2, il y a des règles de combat optionnelles qui permettent effectivement de cadrer un petit peu mieux la règle que je vous ai expliquée. Et dans NBA, le système de combat est refondu, et t'as quelque chose qui, je pense, correspondrait beaucoup plus à tes attentes.
Parce que tu vois, c'est... Il faut pas prêter ce que le jeu est bien et tout ça et que c'est. Il faut pas lui ajouter des qualités qu'il n'a pas. Parce que dans ce que tu m'as décrit, je fais un G. Moi j'ai commencé avec l'œil noir, c'était ça. Mm. L'œil noir c'était attaque parade, bon impact, attaque parade, coup de maître, t'es mort, paf. Et finalement tu vois c'est ça. Alors que voilà, ouais, exactement à notre époque, on attend qu'un jeu. Si je me défonce en narration, il doit le prendre en compte. Si un bon jeu pour moi, si je me suis fait chier à décrire ma scène, que j'arrive en glissant sur le dos, je machin, que je passe entre les...
Non, ah, mais c'est ça.
Comme quoi, tu vois, finalement...
Mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, le mec qui est apathique autour d'une table, je suis désolé pour lui. Je vais l'aider.
Non, c'est pas vrai.
Le mec qui a... On a perdu Dark Keeper. Il va revenir, mais enfin le mec qui est apathique, eh ben il va payer le prix. On joue à un jeu où on parle. On joue à un jeu où on doit s'investir.
Et rien que le nom déjà, jeu de rôle. On est là
voilà.
Pour jouer un rôle.
Exactement. Si tu joues pas ton rôle, bah t'as des malus.
D'accord.
Pour le pauvre Dark Keeper qu'on a chargé et qui a défendu. Car pour ta défense, tu as très excessivement bien défendu par le sommaire et par le menu. L'ouvrage, franchement, m'a donné très envie, rien que pour le côté Londres et le côté notamment ce que tu as dit, la magie des villes. Je trouve ça très très, très très intéressant et pas à utiliser à toutes les sauces, mais c'est quelque chose qui parle et qui peut. Et puis surtout le fait que les cartes soient exploitables et soient composites et qu'on puisse les. Ça me plaît carrément, surtout que je suis toujours en train de regarder la série Reaper Street. Donc franchement, ça. Enfin. Pour moi, à ce niveau-là, c'est vachement intéressant. Et puis, c'est vrai que, bon, voilà, il y a quand même du bon matos dans Trails of Cthulhu en dehors du système. Et de toute façon, comme tu l'as dit, je crois, au début, c'est adaptable. C'est pas, voilà, c'est pas teinté. C'est...
Effectivement, concrètement, le système de règles ne se ressent dans l'ouvrage que dans la création du chasseur de livres et de la librairie, parce que on nous donne des petits points de librairie qu'on peut utiliser typiquement. Je viens de trouver une plante, je sais pas ce que c'est. Dans notre librairie, de mémoire, on a des plantes. En gros.
Mais c'est ça qui est assez marrant, c'est ce principe-là est assez marrant et le principe de lier une équipe autour d'une boutique, je trouve ça carrément sympa. Je savais pas du tout que c'était axé comme ça. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est. Parce qu'il va falloir qu'on passe à la dernière critique, mais moi si je devais résumer, je dirais que si je veux monter un scénar sur. Si je voulais, parce que là j'écris très mal des scénars, mais si j'avais écrit des scénars, et si je voulais monter un scénar sur Londres, je dirais que c'est 4,5 sur 5, parce que je pense que c'est une super base. Pas trop exhaustive, comme peuvent l'être parfois les suppléments sans détour, où tu te perds dans le détail, mais assez pour finalement te donner plein d'idées. Par contre, de base, je mettrais 4, ouais, 3,54 parce que ben, si tu veux pas jouer dans Londres, enfin, non, pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Si tu veux pas jouer dans Londres, c'est complètement con. Dans ces cas-là, tu achètes pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il m'attire quand même à 4, tu vois, rien que pour l'idée, de, le fait d'avoir un contexte. Et puis d'avoir les idées de ben, vous monter une librairie, d'avoir un petit peu des techniques de vente, d'achat, le fait que finalement, ça, au lieu d'être toujours à Londres, ils peuvent tout à fait faire les globetrotters autour du globe à chercher des bouquins, et puis à chercher des trucs, leur mettre des gros bras au cul parce qu'ils sont endettés, des choses comme ça. Donc,
petit point pour l'affaire Armitage. Dans l'affaire Armitage, c'est inscrit, c'est géré, on peut utiliser des personnages chasseurs de livres dans l'affaire Armitage.
Ah voilà.
Bien joué. Et, le petit lien est fait, je trouve c'est pas grand chose, mais.
Non, mais c'est bien.
De ton côté, toi, Prince Noir, t'en penses quoi?
Pour le noter, alors déjà, je lui mets 1 sur 5 pour la défense de Gumshoe, pour être condamné à perpète. Là, il nous a tous les arguments des pipoteurs habituels, hein, d'Emmanuel Gumshoe. Non, mais sinon, je lui mets 4 sur 5 parce que vraiment, il m'a donné envie de
ben, ah, c'est clair, hein.
Il a sorti des arguments. Tu vois, moi, quand je l'écoutais parler, je pensais immédiatement à Nightmare Agency, le fait de gérer une agence de détectives privés. Donc, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Et aussi à des séries télé ou des films, je sais plus comment ça s'appelle, Le Bazar ou Warehouse 13, enfin, tu sais, où tu dois retrouver des objets magiques, etc. Et là, je me suis imaginé, en l'écoutant parler, je me suis imaginé de suite des idées de scénario. Et je dis, ça, c'est porteur, tu vois, c'est plein de bonnes idées, c'est sympa, le côté chasseur de livres, 9e porte, un peu plus énergique que le film, évidemment. Donc là, pour ça, je trouve que ça peut être un super manuel, et puis il y a l'air d'avoir plein de conseils, et ça, c'est intelligent, quoi.
Ouais.
Donc, en conclusion, quand vous voulez une carte de JDR, ne vous arrêtez pas au système de jeu, regardez quand même comment sont faits les suppléments.
Et bien, alors ça, tu vois, c'est une très très bonne remarque pour finir, pour conclure, et j'aurais rien à rajouter, c'est très très juste. Faut pas être con, et se dire, parce que j'aime pas le jeu, je vais pas regarder, parce qu'il y a des suppléments qui sont tout à fait raison, exploitables. Ils peuvent même rien que être bien écrits, avoir des super cartes, avoir des belles illustrations, une pure maquette, ou avoir que des idées, mais tout à fait.
Pour les cartes, j'ai noté un truc là, c'est apparemment t'as fait une bonne remarque, bon, sur le côté qu'il y avait quand tu as demandé s'il n'y avait pas deux cartes, une pour le MJ, une pour le joueur, ça je trouve dommage que ça manque, ça c'est dommage.
Pour les avec pas mal de j'irais un peu avec pas mal de points, tu sais, qui peuvent être pris les deux choses qui sont citées dans le bouquin, quoi.
Ouais. Alors, j'en profite pour faire une petite remarque vis-à-vis du livre occulte de Londres dont tu parlais. Le livre occulte de Londres est conçu pour les mystères de Londres parce que tous les lieux où on est qui sont présentés dans le livre occulte de Londres ont la petite coordonnée qui permet de le retrouver sur
le carte. Ça c'est pas mal ça.
Donc avec ton guide occulte de Londres, t'as plein de petits endroits qui te sont donnés, tu sais où ils sont sur la carte et tu peux les employer.
Ça c'est intelligent,
très,
ça.
Très sympa, ouais, très intelligent.
De relier les deux suppléments et tout, de faire des liens entre dans la gamme, c'est vachement intelligent, ça, c'est très sympa. Bon, bah Lyon, tu t'en es bien tiré quand même, parce qu'on n'a pas été tendre.
Ah, ça c'est clair, hein. Moi j'ai dit la première heure d'Espoir Ride.
Effectivement, on sentait qu'il y avait quelques crispations vis-à-vis du système Gumshoe. Je dis toujours, il faut mieux crever l'abcès.
Ah, mais t'as raison. Bon, allez, enfin, je reprenne le flambeau derrière ça peut être facile, mais c'est le faux joueur de ma sauce.